Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse, piégé par les sortilèges de Circé, se languit pourtant de retrouver son île et Pénélope. La magicienne l'a laissé repartir, mais elle l'a prévenu. Il doit d'abord aller aux enfers pour rendre visite au devin Tirésias. Ulysse creuse un trou profond à l'entrée des enfers. Il fait sacrifier un bélier noir et il attend l'arrivée de l'ombre du devin Tirésias. Mais la première qui se présente est celle d'Elpénor, à qui il a oublié de rendre les derniers hommages. L'ombre du devin Tirésias apparaît enfin et elle vient livrer son avenir à Ulysse. S'il échappe aux trahisons de ses compagnons, s'il lutte contre ses aveuglements, il rentrera sain et sauf et il reprendra sa place sur son île. Au palais d'Ulysse, les servantes s'activent autour de la table du banquet. Vite, elles débarrassent les plats vides, les piles d'assiettes sales. Vite, elles rapportent d'autres plats, débordant de viande de mouton et de bœuf rôti. Les carafes de vin ne cessent de circuler. Il y a là 40 hommes, 50 peut-être, installés comme chez eux. Ils rient, ils parlent fort, ils interpellent les servantes qui ne savent plus où donner de la tête. Certains se sont endormis, la tête sur les bras. D'autres ont glissé au sol et ronflent. La pièce est sale, en désordre, comme si ce festin durait sans interruption depuis des jours et des jours. Dans l'ombre, un homme observe toute cette débauche par une fenêtre intérieure, le visage courroucé. C'est un colosse à la grosse barbe, un de ceux qui semblent taillés dans le tronc d'un chêne. À ses côtés, une silhouette, frêle, féminine, se penche vers son oreille. « Mentor, que pouvons-nous faire ?» murmure la femme qui n'est autre que Pénélope. « Oh, ma reine, c'est terrible. Il dilapide les biens d'Ulysse sous son propre toit. Mais nous n'y pouvons rien, tu le sais bien. Ulysse a pu emmener 12 bateaux à la guerre de Troie, en partie grâce à leur argent ou à celui de leurs parents. C'est la règle qu'ils attendent d'ici son retour et... » Mentor n'ose finir sa phrase. Il sait que tous ces hommes, venus des îles voisines ou même d'Ithaque, veulent prendre la place d'Ulysse dans le lit de Pénélope. Mais la reine d'Ithaque a un geste d'agacement. « Je ne te parle pas de ces porcs imbéciles, Mentor. Je connais la situation. Tant que je ne céderai pas, ils resteront ici à piller la maison d'Ulysse. Je te demandais ce que nous pouvions faire pour lui. » Et d'un mouvement de menton, elle désigne l'un des jeunes hommes qui ne cesse de vider son verre, de remplir son verre et de le vider à nouveau. Car ce jeune homme totalement ivre qui festoie au milieu des prétendants, c'est Télémaque, son fils. En regardant l'adolescent, Mentor est frappé une nouvelle fois par sa ressemblance avec Ulysse. Oui, Télémaque est tout le portrait de son père, mais un Ulysse qui ne se serait encore frotté à aucune aspérité de la vie. Le colosse barbu fait un petit signe à Pénélope, puis il entre dans la grande salle. Il circule entre les musiciens, les danseuses, les servantes, et il s'approche de Télémaque qui s'écrie « Ah bonjour, Mentor, mon ami !» L'accueil est chaleureux malgré l'ivresse. « Moi, je ne te salue point, Télémaque, et je n'accepte plus que tu m'appelles ton ami. » Comme si les mots durs de Mentor l'avaient soudainement dégrisé, Télémaque se lève d'un bond. « Mais que t'arrive-t-il? Et que me reproches-tu? Ce que je te reproche? Ça !» répond Mentor en balayant la pièce d'un grand geste de la main. Pourquoi fais-tu la fête avec ceux-là même qui persécutent ta mère et qui pillent sans vergogne ton père? Il aurait honte de toi. Télémaque, qui a d'abord baissé la tête, se redresse soudain piqué au vif.
Comment oses-tu me le reprocher ?
Ma mère a refusé que je prenne la direction du palais à la place de mon père. Elle m'a ainsi empêché de les chasser. S'ils ne sont pas mes ennemis, je peux bien faire la fête avec eux. Et Pénélope, qui n'a rien compris. Mon père l'a trahi. Mon père a choisi de rester dans les draps d'une autre plutôt que de revenir ici. Mon père nous a oubliés depuis longtemps. Qu'elle en fasse donc autant. Pour moi, c'est déjà fait. Le regard de Mentor va du visage rouge de colère et d'alcool de Télémaque à la silhouette cachée dans l'ombre de la fenêtre. Elle a tout entendu. Il l'a vue vaciller. Et maintenant elle s'éloigne, touchée au cœur.
« Ce que tu dis est méprisable, Télémaque. Pour justifier ta fainéantise et la débauche de ta vie, tu manques de respect à ton père et à ta mère. Mais je te lance un défi. Pars donc à la recherche d'Ulysse sur les mers. Tu veux prendre sa place ? Eh bien, prends-la jusqu'au bout. Pars sur l'océan le chercher, au lieu de te laisser aller ainsi. »
Les yeux de Télémaque lancent des éclairs.
« Je l'aime mieux ainsi qu'Avachi, » se dit Mentor en refoulant un sourire.
« Je crois que j'ai réussi. »
Il garde pourtant un visage dur et sévère en attendant que le fils d'Ulysse lui réponde. C'est alors qu'un des prétendants se mêle à la conversation.
« Hé, qui es-tu, vieux barbu, pour venir ennuyer mon ami Télémaque ? Dégage d'ici et vite !»
Mentor a reconnu le pire de tous ses picassiettes, Eurymaque. Celui-ci a posé son bras sur l'épaule de Télémaque. Le jeune homme est sous son influence. Les cheveux en bataille, il se redresse.
« Ne t'inquiète pas, Eurymaque, » bredouille Télémaque. « Je ne vais pas écouter ce vieux grincheux. Il n'y a plus que ma mère pour penser que mon père reviendra un jour. Et de mon côté, je ne serai pas assez bête pour aller lui courir après. On est très bien sans lui. Allez, buvons !»
Le verre de vin tendu par Eurymaque est vidé d'un trait. Et voilà, l'affaire semble réglée. Eurymaque s'éloigne, rassuré.
Mais Télémaque, soudain, titubant, s'écroule, vaincu par l'alcool.
Mentor le regarde un instant, puis se baisse et le prend dans ses bras comme on prendrait un nouveau-né. Il a compris. Il faut coûte que coûte éloigner Télémaque de ce palais. La nuit est tombée. Les étoiles accompagnent Mentor dans sa fuite. Il emporte avec lui le descendant d'Ulysse et de Pénélope. Mais parviendra-t-il à le soustraire à ses mauvaises influences ? Aux enfers, Ulysse essaie une nouvelle fois de questionner sa mère à propos de Télémaque. Anticlée lui répond d'une voix sourde.
« Il est jeune, impétueux, comme tu l'étais à son âge. »
Elle garde un instant le silence, puis elle murmure dans un souffle.
« Et tu lui manques beaucoup. »
Mais elle ne semble pas désireuse d'en dire plus. Une sourde angoisse grandit dans le cœur d'Ulysse. Il sent que sa mère lui dissimule une part de vérité. Mais déjà, elle se lève et prend congé.
« Fais bien attention à toi, mon fils, et cherche à rester le plus longtemps possible à la lumière du jour. Tu le vois bien ? Notre sort n'est guère enviable. Éloigne-toi vite des enfers. Ton heure viendra bien assez tôt de nous rejoindre sous terre. Et retiens bien tous les secrets du monde pour pouvoir les dire à ta femme. »
Les yeux embués de larmes, Ulysse voit l'ombre de sa mère disparaître. Mais bientôt son chagrin est chassé par la curiosité, car autour de lui se pressent d'autres ombres féminines. Des mères de héros, des femmes de héros, des filles de héros, elles sont toutes là, et Ulysse n'en croit pas ses yeux. La mère d'Héraclès, le héros des 12 travaux, celle d'Œdipe, Jocaste, qui fut aussi sa femme malgré elle, Ariane et Phèdre, qui toutes deux avaient été séduites par Thésée, et bien d'autres femmes encore dont la descendance avait été glorieuse. Ulysse reste de longues heures à converser avec l'une ou l'autre. Beaucoup plus tard, les ombres des hommes se présentent. Hermès a calé la torche entre deux gros cailloux
Pour ne plus la tenir à bout de bras, il s'est allongé un peu en retrait du bélier et il s'amuse de voir l'émerveillement presque enfantin d'Ulysse, si heureux de rencontrer tous ces personnages illustres. Et le défilé continue un long moment. C'est alors qu'Achille apparaît. Ulysse, tout joyeux, se précipite vers lui.
« Ulysse aux mille ruses ! Mais que viens-tu faire dans un pareil endroit ?»
s'exclame Achille.
« Rebrousse chemin ! Ici, il n'y a que désolation. Nous sommes coupés du reste du monde. J'ignore ce qu'est devenue ma douce Briséis. C'est un supplice de ne plus avoir de nouvelles des vivants. »
Ulysse a un geste d'affection pour le guerrier, mais sa main traverse son ombre. « Ta gloire est immense, ô Achille. C'est un sort enviable, dit-il pour le consoler. Mais Achille lui coupe la parole.
« Oui, oui, j'ai fini couvert de gloire. Et alors ? Je préférerais mille fois être un obscur paysan, vivant. »
Ulysse est secoué par de tels propos. Il comprend tout à coup que la plus grande gloire serait de rentrer chez lui en vie. Achille s'est éloigné, et voilà qu'Agamemnon arrive. Mais que fait le chef de l'armée des Grecs, vainqueur de Troie au royaume des morts ? Comment Agamemnon est-il mort ? Et pourquoi son visage est-il aussi douloureux ? Agamemnon refuse de répondre aux questions d'Ulysse.
« Je ne peux pas te raconter. Ce qui m'est arrivé est infâme. Écoute seulement mon conseil. Tout homme devrait se méfier de sa femme. »
Et sans même boire comme les autres sa gorgée de sang, Agamemnon tourne les talons. Perturbé par cette nouvelle rencontre, Ulysse cherche Hermès des yeux. Le petit dieu ailé, qui s'ennuie ferme depuis un moment, a soudain une idée.
« Hé, tu veux savoir ce qui est arrivé à Agamemnon ? Alors, partons d'ici. Je t'emmène à Mycène, juste au moment où il est rentré chez lui. »
Ulysse hausse les épaules. « Mais comment pourrais-je aller dans le passé ? Je ne suis qu'un humain, pas un dieu comme toi. »
Hermès fait une cabriole joyeuse et descend dans les profondeurs des enfers en criant.
« Attends-moi là, et tu vas voir ce que tu vas voir !»
Quelques minutes plus tard, il ressurgit, accompagné de l'ombre du devin Tirésias.
« Et voilà !»
dit triomphalement le dieu messager. Ulysse ne comprend rien à ce manège. Le devin aux yeux blancs sourit.
Cela ne t'a donc pas suffi que je te livre les clés de ton avenir, Ulysse ? Encore veux-tu connaître le sort des autres ? Et tout particulièrement celui d'Agamemnon ?
Ulysse est embarrassé. Il n'ose pas répondre. Il ne sait pas si sa curiosité est la bienvenue. Alors Tirésias sort de sa poche un flacon qui contient un liquide vert.
« Si tu avales quelques gouttes de ce breuvage amer, tu pourras retourner où tu veux dans le passé. J'en ai beaucoup usé autrefois avec Thésée. Mais n'oublie jamais, Ulysse, que tu assistes à quelque chose qui a déjà eu lieu. Tu ne peux donc pas intervenir. »
Ulysse tend la main vers le flacon, puis regarde Hermès. Comme s'il avait compris ses pensées, le petit dieu lui dit.
« Je viens avec toi, bien sûr. Ce que tu as choisi d'aller voir est bien trop dur pour être affronté seul. »
Ulysse est déjà venu à Mycène. En route, il retrouve le même soleil, la même poussière soulevée par les sabots des chevaux. Et puis soudain, au détour du chemin, la majestueuse porte aux lionnes de pierre apparaît. Ah oui, Ulysse a déjà vécu cela. C'était il y a quelques années, lorsqu'il était venu chercher Iphigénie sur l'ordre de son père, Agamemnon. Quelques années qui lui semblent soudain des siècles. Cette fois, Ulysse arrive déguisé en marchand de miel ambulant. C'est une trouvaille d'Hermès pour que les deux visiteurs passent inaperçus. Pour ce qui est des ruses, déguisements et petits mensonges, Ulysse et Hermès forment une sacrée paire de complices. Mais ce costume est bien inutile, car personne ne prend garde à eux ce jour-là. une incroyable effervescence règne en ville. Le retour du roi Agamemnon a été annoncé. Après 10 ans d'absence, le chef de l'armée grecque revient victorieux dans sa patrie. On tue cochons, volailles, moutons pour préparer un magnifique festin. Les deux faux marchands entrent au palais par les cuisines. Ils livrent leur miel. Comme le veut la tradition de l'hospitalité en pareilles circonstances, ils sont invités à manger. Puis on ne fait plus guère attention à eux. La voie est libre. Au palais, tout le monde n'est pas joyeux à l'annonce de ce retour. La reine Clytemnestre ne desserre pas les dents. En 10 ans d'absence, elle aurait eu le temps d'oublier son mari, comme l'ont fait de nombreuses femmes de guerriers, mais elle ne l'a pas oublié, non. Elle a pensé à lui chaque jour, parce qu'elle l'a haï chaque jour un peu plus. Et ce que voit enfin arriver Clytemnestre, c'est le jour de satisfaire son implacable haine. C'est le jour de sa vengeance. Sur la route poudreuse, la troupe d'Agamemnon avance. Quelques heures plus tôt, lorsque son navire a jeté l'ancre dans le port de Nauplie, Agamemnon a sauté sur la terre ferme et a embrassé le sol en pleurant. Maintenant, il a revêtu son armure flamboyante. Il est dressé sur son cheval et il essaie de hâter le pas. Il est impatient de serrer son fils Oreste dans ses bras. Durant toute cette guerre, il a peu pensé à lui, à ce bébé qu'il a laissé en partant. Mais aujourd'hui, l'idée de rencontrer ce garçon de 10 ans lui plaît. Ses filles, Iphigénie et Électre, n'ont jamais compté à ses yeux. Oreste, c'est différent. Il est son fils, son descendant. Mais ce qui excite encore plus l'impatience du roi de Mycène, malgré la fatigue du voyage, c'est d'être accueilli en héros par son peuple. Il savoure à l'avance son heure de gloire. Les chevaux sont lourdement chargés du butin pris aux Troyens. Il est déjà un homme riche et puissant depuis le jour de son départ. Mais il revient encore plus riche, encore plus puissant. Il ne cesse de donner des ordres, de crier pour faire accélérer la troupe. Parmi les esclaves troyennes qui marchent dans la poussière, une jeune femme l'intéresse plus que les autres. Il la choisit comme favorite dès la prise de Troie. Les yeux verts, le front haut, des nattes rousses aux reflets ambrés, tout en elle attire Agamemnon. Mais ce qui lui plaît le plus, c'est sa démarche presque féline. Il talonne son cheval pour arriver à sa hauteur. Puis, il la fait monter en selle, derrière lui. « Tu vas bientôt découvrir mon riche palais et mon peuple qui m'adore, Cassandre. Tu aimeras Mycène, tu verras. Je serai le plus heureux des rois. » Au loin, la haute silhouette de la ville vient d'apparaître sur la colline. Des hurrahs s'élèvent dans la troupe des soldats. Cassandre, la prophétesse que personne ne croit, a vu elle aussi les murailles de Mycène. Mais ce qu'elle voit soudain, ce sont des murailles ruisselantes de sang. Elle ne peut s'empêcher de pousser un cri. « Qu'y a-t-il, Cassandre ?» questionne Agamemnon. Je vois du sang qui coule sur les murailles de ta ville, ô grand roi, et ce sang, c'est le nôtre. « Tu es devenue folle !» s'emporte Agamemnon. Cassandre s'est mise à trembler comme une feuille. « Oh, je t'en supplie, Agamemnon, si tu tiens à la vie, n'y va pas. N'entre pas dans ce palais aux marches rougies de ton sang, de mon sang !» Devant les yeux exorbités de Cassandre, tout s'obscurcit. Elle ne voit plus le soleil, ni l'herbe verte des collines autour d'elle. Elle ne voit plus que du noir et du rouge. Et c'est sa mort qu'elle découvre, en plus de celle du roi. Mais Agamemnon, comme les autres, ne l'écoute pas. Personne ne peut en vouloir à ma vie, sotte que tu es avec tes visions. Puisque tu as peur de ma ville, descends de mon cheval et tu y entreras à pied, comme toutes les esclaves. Du haut des murailles, un couple observe l'avancée de la troupe. L'homme a posé la main sur l'épaule de la femme.
« Ne t'inquiète pas, je vais lui régler son compte à ce monstre, » dit-il.
D'un geste brusque, elle se détache de lui. « Pas question, c'est moi et moi seule qui lui ferai tout payer, tout. Range ton épée, Égiste, et laisse-moi agir. »